Je suis accompagné de Christopher.
Bonjour à tous, bonjour aux internautes de la Web TV. Je m'appelle Christopher Maneux, je suis responsable des applications avec mon équipe Windows pour Deezer. Et à côté de ça, je suis MVP et Nokia développeur champion.
Alors, on a une ambition dans cette session, vous faire découvrir comment on développe des applications au sein de Windows 8.1. Pour ça, on fera un petit tour d'horizon de la version de Windows 8.1. On vous montrera comment développer des applications, comment les diffuser, les monétiser, et puis l'ensemble des outils qui vous sont nécessaires pour réaliser des applications. Alors, la première étape, petit tour d'horizon, globalement, de Windows 8.1. Alors, plutôt que démo, démo. Donc, Windows est composé de deux univers qui se côtoient. Le premier univers, qui s'appelle Modern UI, qui est celui que vous voyez, permet de présenter l'ensemble de ces applications sur une page qui est plein écran, et ces applications se nomment des apps. Le deuxième univers, c'est une application desktop qui permet d'exécuter sur les versions Pro et Entreprise et Windows 8.1 vos applications telles que vous les connaissez, Word, Excel, PowerPoint, bien sûr, Visual Studio, votre navigateur, tout ce qui va être applicatif commun qu'on utilisait avant. La particularité donc de Windows 8.1, ça va être ces applications qui sont accessibles via un store que je vous montre. Nous avons fait le check réseau avant, tout marche bien. Donc ici, un store qui permet en fait de visualiser, chercher ces applications, par exemple ici, une application de cuisine, et de télécharger ces applications directement sur son écran principal. Une fois téléchargées, les applications apparaissent ici. Ce que je vous propose, pour pouvoir voir comment développer une application, c'est que globalement, on en dissèque une. Par exemple, une application de sportif, parce que j'aime bien manger des pommes, donc autant vous la présenter. Donc cette application se présente en plein écran, et comme on le voit, on navigue dedans de gauche à droite. Autre élément particulier de cette application, quand je vais naviguer dans les éléments de cette application, globalement, je vais ouvrir des pages de détails, je vais naviguer comme ça dans mon application, avec ici un bouton « Back » qui va me permettre de revenir en arrière et de pouvoir avoir une navigation fluide. Tout est pensé pour que globalement, ça soit utilisable clavier et souris, comme c'est le cas ici, ou tactile, comme c'est le cas actuellement. La particularité aussi des applications, c'est la capacité à avoir des menus d'action, qu'on appelle aussi app bar, et qui, comme vous le voyez ici, sont accessibles soit en faisant un swipe de haut en bas, soit en faisant clic droit directement sur mon application. Ici, je vais donc pouvoir revenir à des éléments spécifiques, comme l'accueil, ou alors des différents exercices, et ça va me permettre d'aller directement à un élément de ma page. Alors, la possibilité de fermer l'application, évidemment, et d'enlever toutes ces applications. Concernant la partie desktop, je pense que vous connaissez, il n'y a pas de souci. Ici, c'est une application classique, comme par exemple PowerPoint. En résumé, on a deux univers, desktop et Modern UI, qui sont accessibles dans Windows 8.1. On a la barre, l'intégration globalement à l'OS, alors ça on le reverra un petit peu plus tard, mais vous avez tout ce qui va être notification, toast de notification, vous avez tout ce qui va être la recherche, les devices, les éléments, qui vont vous permettre en fait de vous intégrer directement à l'OS en utilisant notamment les charms. Donc les charms, c'est en fait cette barre qui apparaît sur la droite de votre PC que vous voyez ici et qui va vous permettre d'accéder à un certain nombre d'éléments comme revenir par exemple à la page d'accueil. Alors, le petit tips du jour, si vous faites clic droit sur le menu démarrer, vous avez ici un menu qui apparaît. Bref, Windows 8, c'est une vraie opportunité pour les développeurs. Et Christopher, je crois que tu veux nous montrer comment est-ce que désormais on développe une application comme celle que j'ai présentée.
Tout à fait, Sacha. Alors, la première chose, avant de commencer à développer, on va s'assurer d'avoir les bons outils. Alors, le premier outil, vous vous en doutez, c'est Windows 8.1. Alors, j'ai quand même deux petites choses à vous dire là-dessus. La première, c'est que si vous avez un poste de développement sur lequel vous avez des applicatifs spécifiques, vous ne pouvez pas passer à Windows 8.1. Vous pouvez très bien installer Windows 8.1 en double boot ou dans une machine virtuelle. Donc ça, c'est une solution pour commencer dès à présent à travailler sur Windows 8.1. La deuxième chose, c'est que vous aurez besoin de Windows 8.1 à la fois sur votre poste de développement ou lié à Visual Studio, mais également sur le poste sur lequel vous allez tester les applications. On verra par la suite que donc on peut tester et développer sur deux machines différentes au sein de Visual Studio. Ensuite, bien évidemment, l'outil de prédilection du développeur Microsoft, c'est Visual Studio. Il vous faudra Visual Studio 2013. De base, il y a les templates de projet pour Windows 8.1. Et il faut savoir qu'il existe une version express qui est gratuite, qui est téléchargeable directement sur le site de MSDN. Et vous pouvez même faire des applications qui génèrent du revenu, on verra comment tout à l'heure, avec cette version gratuite. Enfin, il y a certains outils qui ne sont disponibles que dans un SDK qui est téléchargeable en plus, là aussi gratuit, donc je vous invite à le télécharger dès que vous commencez le développement. Et enfin, pour chaque machine sur laquelle vous allez débugger une application, il vous faudra une licence développeur qui nécessite simplement un compte Microsoft. Alors après, en termes de développement et de code, en fait, quel que soit le développeur Microsoft que vous êtes, vous allez trouver votre bonheur dans la plateforme Windows 8.1, puisque vous pouvez développer des applications natives, y compris avec du HTML, CSS et du JavaScript. À l'autre bout, on a bien évidemment DirectX et C++, donc là on se situe plus sur des types d'applications graphiques ou des jeux vidéo. Et puis enfin, quelque chose qu'on a l'habitude en tant que développeur Microsoft, c'est XAML pour la partie affichage et pour la partie code métier, Visual Basic, C# ou même C++. Et quel que soit le langage que vous choisissez d'utiliser, on s'appuie sur les API WinRT pour pouvoir accéder aux fonctionnalités spécifiques de Windows 8.1.
Ce que tu veux dire, c'est que même avec JavaScript et HTML, j'accède aux éléments de, globalement de l'OS, le système de fichiers, tous ces éléments-là.
Exactement. Quel que soit le langage que vous choisissez pour développer, eh bien, vous pourrez utiliser exactement les mêmes API, c'est-à-dire même en JavaScript, pouvoir accéder à des périphériques Bluetooth ou USB. Alors, je te vois venir. Ok, donc on utilise des API communes entre HTML, CSS, JavaScript et C#. Du coup, lequel des deux nous limite par rapport à l'autre? Mais en fait, on n'a pas énormément de limites en choisissant l'un des langages ou l'autre. On a repris ici un schéma qui regroupe les grandes catégories des API, et vous pouvez vous apercevoir que quel que soit en fait le type d'application que vous voulez développer, vous allez trouver votre bonheur dans les API disponibles sur WinRT. Donc par exemple, si vous faites une application d'entreprise, vous allez pouvoir accéder aux contacts ou aux calendriers, vous allez pouvoir manipuler des PDF, accéder aux scanners. Si vous faites une application qui est plus destinée au terrain, ben, vous pourrez vous connecter à des périphériques en Bluetooth ou en USB. Si vous faites une application de type Bing Fitness, comme on a vu tout à l'heure, ben, vous pourrez vous connecter à des API web en XML ou en JSON.
Donc globalement, j'ai accès à ça dans tous les langages que tu as montrés juste avant.
Dans tous les langages, en C#, tout simplement en C#, et puis en JavaScript, on a une librairie qui se rajoute par-dessus JavaScript qui s'appelle WinJS, qui expose ses fonctionnalités spécifiques à Windows 8.1. Alors ce que je te propose, c'est que ben, on regarde un petit peu comment ça se passe dans Visual Studio.
Mais regardons.
Alors la première chose que je vais vous montrer, c'est Visual Studio Express, donc c'est la version gratuite qui regroupe en fait les différents templates de projets qui sont disponibles en fonction de votre langage. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'on retrouve en fait les mêmes types de modèles de projets. Alors bien évidemment, on a l'application vide, à vous de tout construire, mais on a aussi des templates qui vous permettent de commencer plus rapidement votre développement. Donc par exemple, ce type de projet-là, où vous voyez, on a déjà un canevas d'application qui est déjà fait avec des pages, avec la navigation entre les pages, où vous n'avez plus, entre guillemets, qu'à rajouter vos données pour déjà avoir une petite application fonctionnelle.
Donc Canva qui me permet d'accélérer finalement mon développement et de ne pas partir d'une page vide, mais de partir déjà d'éléments pré-codés dans lesquels je vais pouvoir insérer mes données, les éléments de binding de ces données pour faire mon application.
Tout à fait.
D'accord.
Voilà. Et c'est ce que j'ai fait pour vous développer une petite application. Alors bien évidemment, je suis parti sur une application musicale que je vais vous montrer, qui s'appelle Music Days. Le principe, en fait, c'est tout simplement de découvrir de la nouvelle musique et pour enrichir donc ma culture musicale. Donc là, en fait, on arrive sur une page d'accueil où je retrouve les recommandations qui sont faites pour moi. Et puis, si je clique ici, j'ai une page de détails dans laquelle en fait je vois l'album en question, et si on a du réseau, voilà, on a la musique, qui se lance. Donc ça, pour faire ça, je suis parti d'un template de base de Visual Studio, et puis des API Deezer pour récupérer les informations, les artistes, les albums, etc. Donc là, on se situe donc sur la mainpage.xaml, qui est en fait le code de la page principale de mon application. Donc moi, j'ai choisi XAML et C# pour faire mon application, parce que c'est le langage que je maîtrise le mieux. On aurait pu faire exactement le même sample avec les autres langages que j'ai montrés. Donc là, comment on crée donc cette page-là? On a tout d'abord notre fichier mainpage.xaml. Donc le XAML, en fait, c'est un XML qui vous permet de décrire l'interface de votre application. On voit que dans la partie basse de Visual Studio, j'ai le code XAML. Et dans la partie haute, ben, je vois en fait en direct l'interface que je suis en train de développer. Alors j'ai des outils qui sont spécifiques à Windows 8. Par exemple, sur le côté, j'ai une barre périphérique qui me permet en fait de tester mon application dans différents types de résolutions. On a sur Windows 8 la possibilité de créer une seule application pour présenter sur des tablettes de 8 pouces jusqu'à des écrans de bureau et des ordinateurs de bureau 30 pouces avec, comme tu l'as dit, du tactile, de la souris, etc. Donc cette barre-là me permet en fait, tout simplement de tester mon application dans les différentes résolutions. Et puis ensuite, j'ai un fichier dit de code behind, donc le mainpage.xaml.cs, qui lui le code métier. Et comme tu l'as dit, les applications Windows Store sont organisées sous forme de pages et on navigue entre ces différentes pages. Donc là, on a vu la main page et en fait, on voit ici le code de navigation. Donc c'est simplement une seule ligne pour aller naviguer vers la page d'information d'un album. Donc il suffit que j'appelle frame.navigate et on remarquera que je n'appelle pas une URI ou une adresse comme on pourrait s'y attendre parce qu'on est dans, on parle de navigation, mais un type de page, donc c'est en fait la classe C# qui est représentée par mon albumpage.xaml qu'on va voir juste après. Et ça c'est très intéressant parce que dans la vie de ton application, si tu vas faire du refactoring, tu vas peut-être changer le nom de la page et dans ce cas-là, il suffira de compiler l'application et vous apercevrez si y a des appels à cette page-là qui n'ont pas été modifiés. Donc ça vous permet d'assurer une meilleure évolutivité de votre application.
Donc si je comprends bien, on a des pages XAML qui constituent les éléments que tu as présentés, c'est-à-dire la page d'accueil, la page de détail d'un album, par exemple. Et puis, j'ai du C#, dans ton cas, qui va me permettre de décrire les accès métiers, la connexion au site, enfin au web service, à tous ces éléments-là, comment se comporte mon application, dont la navigation.
Exactement.
D'accord.
Voilà. Et donc là, je suis passé donc sur le code de la page albumpage.xaml.cs. Et donc j'ai une méthode qui s'appelle onNavigatedTo qui est appelée à chaque fois qu'on navigue vers ma page. Et dans cette méthode-là, je récupère le paramètre qui m'a été passé, donc l'ID de l'album. Et puis ensuite, je me suis fait une petite classe pour aller charger les informations. Donc c'est là-dedans que j'appelle le service web de Deezer pour aller charger les informations de l'album, la couverture, etc. Et ensuite, la passer à mon interface graphique pour qu'elle affiche le détail de cet album-là. Donc ensuite, ce qu'on a vu ici, tu vois, c'est que j'ai une petite tuile. Donc il y a différentes tailles de tuiles sur l'écran principal. En tant que développeur, vous pouvez bien évidemment gérer ces différentes tailles. Pour ajouter la tuile large, pour avoir plus d'informations, je vais aller éditer un fichier qui est un fichier assez important dans les applications Windows Store, qui est le manifeste. Donc on le trouve ici, donc il s'appelle package.appix-manifest. Et quand vous double-cliquez dessus, vous avez un éditeur qui s'ouvre. Donc en fait derrière c'est du XML mais vous n'avez pas à ouvrir le XML directement. Et on peut voir ici dans cet onglet ressources visuelles que j'ai en fait l'ensemble des images qui décrivent mon application dans les différentes résolutions pour supporter encore une fois les différents types de matériel. Et donc là j'ai mon logo rectangulaire et je vais pouvoir aller charger l'image de ma tuile en large. Donc il va automatiquement la copier dans le projet et la rajouter au manifeste. Si je déploie l'application sur mon ordinateur, donc en apparence rien n'a changé, par contre quand je vais revenir sur ma page d'accueil, si je fais un clic droit, je vais pouvoir ici maintenant redimensionner en vignette large et donc prendre plus de place.
Très bien.
Voilà. Alors tant qu'on est dans cet éditeur de manifeste, il y a autre chose qui est important, c'est que les applications Windows Store sont dites sandboxées. Ça veut dire qu'en fait elles tournent dans un environnement qui est restreint. Tout ça pour éviter en fait qu'une application que vous téléchargez puisse automatiquement ouvrir la webcam, enregistrer ce que vous dites avec le micro, recopier vos fichiers, etc. Donc pour pouvoir accéder à ce type de contenu sensible, vous allez devoir demander en tant que développeur l'autorisation d'accéder à ce type de périphérique ou à ce type de données. Et tout ça, ça se passe dans l'onglet capacité. Et on voit ici que j'ai déjà coché la capacité Internet, puisque j'accède à des API, il y a des images qui sont sur Internet. Donc j'ai demandé à ce que mon application puisse avoir ce privilège-là. Voilà. En fonction des privilèges que vous choisissez, il va y avoir des règles sur le store qui sont différentes. Et puis surtout, à l'autre bout, l'utilisateur final de votre application sera prévenu que votre application va nécessiter, par exemple, l'accès au GPS. Bon, écoute, je crois qu'on n'est pas trop mal pour une première application.
Je pense qu'on est pas mal. Si je résume, on a une partie de code XAML, on a une partie de code C#, on a Visual Studio qui nous permet d'utiliser globalement ces éléments pour en créer mon application.
Exactement.
Telle que tu l'as exécutée finalement tout à l'heure. Et je peux exécuter cette application sur ma machine pour la tester ou bien sur d'autres éléments.
Tout à fait.
Tu es d'accord ? Donc, un des éléments clés, une fois que j'ai créé et réalisé cette application, ça va être de pouvoir la diffuser. Globalement, la première chose avant de diffuser son application, on en a un petit peu parlé, c'est de tester cette application. Alors, vous savez que les notifications marchent bien sous Windows 8. Voilà un exemple d'application bien intégrée, Twitter. Donc, globalement, votre application est testable à partir du moment où vous avez une licence développeur. Vous allez donc pouvoir générer ce qu'on appelle un package. Et ce package va contenir un script PowerShell qui va vous permettre d'installer votre application de manière autonome, finalement, quel que soit le device. Alors, on a parlé un petit peu des différents facteurs de forme, je pense qu'on peut en montrer quelques-uns. Donc là, vous avez un facteur de forme qui est un PC hybride, une tablette avec un clavier. Et ici, vous avez un facteur de forme, 8 pouces, donc une petite tablette. Et évidemment, les applications qu'on développe pour Windows 8 vont pouvoir s'exécuter sur tous ces facteurs de forme, notamment sur mon PC qui, lui, a un écran globalement de 13 pouces. Et pour tester finalement mon application sur ces devices, il va falloir que je puisse l'exécuter, la positionner, et je le fais grâce au package et au script PowerShell. La deuxième étape, une fois que j'ai testé cette application, et je vous montrerai comment on le fait, un petit peu plus tard, ça va être de diffuser mon application sur le store. Alors, pourquoi le store ? D'abord, ça s'intéresse aux personnes qui veulent diffuser leur application à un très 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 large public. Le store est ouvert à tout le monde. Le Windows Store va vous permettre donc de diffuser votre application de manière simplifiée et à un très grand nombre, globalement, d'utilisateurs potentiels de votre application. Pour ce faire, vous allez devoir vous acquitter soit en tant que personne à un compte développeur pour 19$, ça fait 14€ à peu près, soit pour une entreprise pour 99$, 75€ à peu près. Donc à partir de ce moment-là, une fois que vous avez créé votre compte sur le Windows Store, vous allez pouvoir globalement publier vos applications, les rendre disponibles et bien sûr les monétiser. L'un des enjeux quand on a déployé une application sur le Store, ça va être de voir, valider, comprendre globalement qui sont mes utilisateurs, comment ils utilisent mon application. Vous l'avez fait dans un certain contexte, vous avez déployé votre application dans un certain contexte, et ce que vous voulez, c'est pouvoir l'analyser. Là aussi, le Windows Store va vous permettre de le faire. Il va vous donner un ensemble d'éléments dans un dashboard qui vont vous permettre d'analyser le nombre de téléchargements répartis par pays, le rating, c'est-à-dire combien de personnes vous ont bien noté, mal noté, les différents commentaires des différentes personnes, de manière à ce que vous puissiez le prendre en compte, améliorer votre application et donc améliorer sa diffusion et puis globalement sa vente. C'est un élément essentiel dans le cadre du développement d'apps, c'est vraiment l'analyse globale de mes utilisateurs post-déploiement sur le store. Et n'oublions pas les entreprises. Le développement d'apps n'est pas uniquement fait pour déployer des applications publiques sur le store. Elles sont très fortes dans ce domaine, mais on peut aussi déployer des applications sur un parc de tablettes, de PC, d'appareils hybrides sur et dans mon entreprise. Je vais donc pour ça avoir plusieurs possibilités. La première, ça va être un outil in the cloud qui s'appelle Windows Intune, qui va vous permettre en fait de déployer votre application directement sur tous vos parcs de tablettes qui appartient à l'entreprise. La deuxième possibilité, dite sideloading, ça va être de pouvoir, via une version Windows 8.1 d'entreprise, déployer directement en mode push vos applications sur les tablettes. Et puis, le dernier, c'est l'utilisation d'un outil Microsoft interne à votre entreprise qui permet de déployer des applications qui s'appelle System Center Configuration Manager, SCCM pour son petit nom. Alors, regardons un petit peu comment est-ce que je publie mon application, je crée mes packages. Donc je reprends ici l'application que nous avons développée avec Christopher, donc qui est toujours mon application de musique, et je vais vouloir cette application la déployer directement sur mon store. Pour ça, je vais aller ici directement sur mon projet et je vais aller dans le menu Store. J'ai trois possibilités. Créer un app package qui va me permettre de tester mon application. Je vais créer mon package, le script PowerShell, et je vais pouvoir le déployer. L'associer directement avec le store via mon compte de développeur. Je vais pouvoir associer mon application sur le store et directement la publier à partir de mon outil de développement. Et puis, bon, une capture de screenshot. Pour le coup, ce que nous, on voudrait faire, c'est pouvoir créer le package de déploiement, tu es d'accord, pour le tester et puis, par la suite, pour la déployer sur le Windows Store. Donc là, j'ai deux possibilités quand je crée un package. Soit je veux directement le créer pour le publier, soit je veux le créer pour tester. En l'occurrence, c'est ce qu'on souhaite faire ici. Une fois qu'on a fait ça, on va avoir un numéro de version qui va s'incrémenter. On va pouvoir spécifier pour quel type de processeur, globalement, je prévois mon application. Et puis, je vais créer mon package. Donc, quand je crée mon package, on voit ici la trace qui nous explique qu'il build, ce qu'il fait, comment il le fait. Et puis, j'ai cette fenêtre qui s'ouvre m'indiquant où est mon package. Si je clique sur le lien, je vois ici, globalement, mon package qui est composé de plusieurs éléments. Un fichier appx upload qui va me permettre d'uploader mon package sur le store. Et puis, puisque là, j'ai fait du test, je suis toujours en mode debug, l'ensemble de ces fichiers. Le premier ici qu'on voit, c'est bien un script PowerShell. Et ce script PowerShell, il va me permettre d'exécuter mon application globalement en test. Si je fais un clic droit dessus et que je l'exécute avec PowerShell, voilà, j'ai donc l'ensemble du script qui se déroule et je suis en train d'installer mon application directement sur mon poste de travail. Donc il me pose un certain nombre de questions, il installe l'application et l'application va être installée. Voilà, c'est fait. À partir du moment où vous avez fait ça, que vous le fassiez ici ou sur un autre device, vous allez avoir votre application qui va être installée, vous allez pouvoir l'utiliser. Ensuite, il y a la publication sur le store. J'ai créé mon package et je veux pouvoir le publier sur le store. Pour ça, je vais ici sur un lien qui s'appelle appdev.microsoft.com/store-portal. Je me connecte avec mon compte développeur et j'ai accès ici à plusieurs possibilités de déploiement d'applications. C'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais à aucun moment je suis limité dans le déploiement du nombre d'applications que je fais quand j'ai un compte de développeur. Donc je peux ici en déployer plusieurs. En l'occurrence, je vais vouloir ici déployer une application TechDex 2014 démo. Alors, j'ai fait un petit peu de travail avant que je vous explique. La première étape, c'est de réserver un nom. Donc pour ça, vous devez créer votre nom. Il y a déjà plein d'applications sur le store. Il faut valider que le nom que vous avez choisi pour votre application est bien disponible. La deuxième étape va être de définir comment vous vendez votre application. Ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Ensuite, vous définissez les différents services, l'âge légal pour lequel les utilisateurs ont le droit d'utiliser votre application, dans notre cas, très faible. Si vous voulez que votre application soit cryptée, est-ce qu'elle a des échanges cryptés, est-ce qu'il y a des choses particulières à prendre en compte ici. Et puis, le déploiement du package. Si je clique ici, je vais avoir tout simplement à browser globalement les endroits où j'ai positionné mon package, c'est-à-dire ce répertoire. Hop, je clique ici sur « Browse to files ». J'ai la possibilité ici d'accéder directement sur l'appx upload. Je l'ouvre et globalement, mon application se déploie. Quand mon application se déploie, il y a deux étapes très importantes que vous ne maîtrisez plus. La première, c'est un test technique que fait Microsoft sur votre application. C'est-à-dire que globalement, votre application va être récupérée dans ce déploiement. Puis il va passer un certain nombre de tests techniques, de certifications, de routines de tests pour vérifier qu'elle ne crache pas, qu'elle s'exécute bien, que globalement elle est conforme aux règles qui ont été définies pour une publication sur le Windows Store. Le deuxième élément, c'est un test de contenu. Cet élément est manuel, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui prend votre application et qui valide un certain nombre d'éléments dans le contenu, notamment, c'est quelque chose d'important, le sens qu'a votre application. C'est-à-dire, est-ce que votre application, elle est utile, elle va servir aux gens, ou est-ce que votre application, elle ne fait rien? Si je publiais l'application de démo, globalement, cette application, je joue de la musique, elle pourrait être validée. Si je faisais juste une application de test qui fait Hello World, évidemment que cette application ne se retrouverait pas sur le store, je ne passerais pas cette deuxième étape. Alors, la dernière étape, c'est tout simplement d'associer mon app avec le Windows Store, ou bien de créer le package, ce que je vous montrais tout à l'heure, directement ici pour le Windows Store. Ce qui va se passer quand je vais faire ça, c'est qu'on va me demander tout simplement de me connecter avec mon compte, puis on va me demander un certain nombre d'étapes nécessaires jusqu'au déploiement du package, qui sont les étapes que je vous ai décrites précédemment. Hop, pas la peine d'aller jusqu'ici. Alors, on a créé notre application de musique. On a vu comment on le faisait, Christopher nous l'a présenté. On a vu comment diffuser cette application. Il reste une étape, devenir riche. Ou très riche. C'est les mêmes pièces jaunes, globalement. Alors, comment monétiser son application? La première étape, votre application peut être tout à fait gratuite sur le store. La deuxième étape, vous pouvez décider que votre application soit gratuite plus de la publicité. Pour ça, Microsoft vous donne un certain nombre d'éléments, notamment, comme tu l'as présenté, Christopher, vous avez un ensemble de contrôles utilisateurs qui sont disponibles et vous avez des contrôles utilisateurs spécifiques pour ajouter la publicité dans votre application. L'autre possibilité, c'est d'avoir votre application qui soit directement payante. Quand elle apparaît sur le store, vous avez un montant pour lequel vous devez vous acquitter pour télécharger l'application. Et enfin, la partie paiement in-app. Le paiement in-app, c'est la capacité à votre application à être gratuite, à fournir un ensemble de services gratuitement, mais pour certains services, à les rendre payants. Mais ces services sont vendus dans l'application. Vous n'êtes pas obligé de vous acquitter du paiement avant l'installation de l'application. Vous vous acquittez du paiement pendant l'utilisation de l'application. Et enfin, un élément assez important et différenciant, Microsoft vous donne la possibilité pour toute la partie paiement de globalement utiliser vos propres mécanismes de paiement et de ne pas nécessairement passer par son mécanisme de paiement qui est fourni évidemment par défaut. Non, vous pouvez passer par votre site web d'achat parce que vos utilisateurs ont l'habitude ou tout simplement par du paiement PayPal, là aussi parce que vos utilisateurs ont l'habitude. Alors, avant de passer à ça, je voudrais juste vous montrer où globalement on ajoute le paiement. Si je reviens dans mes étapes ici, au niveau de mon dashboard, donc sur appdev.microsoft.com, j'ai ici la partie selling. Et dans la partie selling, j'ai ici la possibilité tout simplement de définir le prix de mon application ou de définir si je vais avoir des in-app purchase dans mon application. Je pense que globalement pour cette partie, c'est terminé, Christopher. Peut-être passe-t-on aux outils, aux différents outils nécessaires pour pouvoir développer maintenant cette application?
Tout à fait. Alors comme tu le sais Sacha, moi j'aime beaucoup les outils et avec Visual Studio 2013 et Windows 8.1, je suis assez servi. La première chose, on l'a vu, on peut tester et déployer son application sur tout un tas de périphériques. Le problème, c'est qu'on ne va pas installer Visual Studio sur chacun des périphériques. Et puis, quand on est en train de débugger quelque chose, surtout par exemple sur des tablettes Windows RT, donc ont des processeurs ARM qui n'ont pas du tout la même puissance et capacité de traitement que des processeurs Intel classiques, eh bien, ça peut être intéressant de pouvoir débugger directement sur ce périphérique-là. Et pour ça, en fait, c'est assez simple. Il suffit, tout là-haut dans Visual Studio, au lieu de cliquer directement sur le bouton débugger, de cliquer sur la petite flèche qui est juste à la droite. Et là, on peut voir que j'ai trois options. L'ordinateur local, donc c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. On a aussi le simulateur, donc c'est un simulateur qui va ouvrir entre guillemets un deuxième Windows. Et puis vous avez des outils en plus, donc si vous travaillez avec la géolocalisation ou si vous voulez simplement prendre des screenshots de votre application pour remplir la description du store, ça peut être intéressant. Et enfin, j'ai l'option ordinateur distant. Donc ça vous permet de vous connecter à un ordinateur qui est sur le même réseau que le vôtre. Il suffit d'installer un petit agent, le Remote Debug Tools, que vous pouvez trouver sur le site MSDN. Donc vous l'installez sur chacun des PC sur lesquels vous vous déployez. Et ensuite, quand vous cliquez sur ordinateur distant, il va simplement vous demander de choisir l'ordinateur sur lequel vous voulez déployer et débugger en direct l'application. Ensuite, moi je m'occupe plus particulièrement de la partie interface graphique dans les applications. Et j'ai un outil que j'affectionne beaucoup qui est Blend pour Visual Studio. Donc vous le connaissez peut-être sous le nom de Expression Blend. Donc il a été renommé avec Visual Studio 2013. Il a aussi été intégré dans Visual Studio 2013, y compris la version Express gratuite. Donc lui, il est spécifique à l'intégration. Voilà, donc on retrouve des outils spécifiques à ce domaine-là. Alors, par exemple, quand on a la chance de travailler avec un graphiste, souvent, il va nous livrer des fichiers au format Photoshop ou Illustrator. Eh bien, on a la possibilité directement dans Expression Blend d'importer ce fichier Photoshop ou d'importer ce fichier Illustrator, ce qui nous permet de récupérer des graphiques ou des couleurs extrêmement simplement. Et ça nous permet également de comparer le design qu'a fait le designer avec l'intégration qu'on est en train de faire. Encore une fois, ça fonctionne en XAML et en HTML CSS.
Donc Visual Studio, plutôt un outil pour les développeurs, et Blend, plutôt un outil pour les designers ?
Alors, les designers peuvent l'utiliser, mais on reste dans un outil qui écrit du code au final, mais ils peuvent effectivement faire une première passe ou faire une repasse, c'est-à-dire qu'une fois que le développeur intégrateur a fait son travail, le designer peut l'ouvrir et se retrouve avec une interface qui est simplifiée. Vous voyez, de base, on ne voit pas le code. Alors, bien évidemment, on pourrait voir le code de la page ou le code C#, mais de base, il ne l'a pas, donc il n'est pas effrayé par le code ou la peur de casser quelque chose. Donc oui, c'est un outil que les designers peuvent utiliser. Alors spécifiquement par rapport à Windows 8.1, on a des outils en plus. Donc par exemple, la gestion des app-bars. Donc on a vu dans l'application tout à l'heure avec la démonstration, sur Bing Fitness, on avait une app-bar en haut. Donc il y a aussi une app-bar en bas pour les actions que l'utilisateur peut faire sur la page. Et c'est très simple. Il vient de la faire directement dans Blend. Par exemple, là, il suffit que je fasse un clic droit, ajouter une app-bar. Et donc j'ai une app-bar qu'on voit apparaître sur le bas de l'écran qui a déjà la structure en deux parties. Donc ça, c'est aussi, ça fait partie des guidelines du langage Microsoft Design. Donc à gauche, on a les actions contextuelles et à droite, on a les actions principales. Donc par exemple, sur cet écran-là, je vais vouloir rajouter un bouton « Ajouter à mes favoris » dès que j'ai fait une découverte d'album qui m'intéresse. Donc là, on peut voir la liste des composants qui sont fournis de base dans Windows 8.1. Donc là aussi, on en a un certain nombre, ce qui nous permet de couvrir pas mal de besoins. Et si je tape App Bar, eh bien on se retrouve avec l'App Bar Button, donc qui est le bouton standard de l'App Bar, que je n'ai plus qu'à faire glisser-déposer sur l'App Bar. Et là, je peux directement éditer mon App Bar. Donc par exemple, en changeant le nom, ajouter au favori, et aussi en changeant l'icône. Donc là aussi, si vous avez fait du Windows 8, il fallait connaître le code hexadécimal de l'icône. Encore une fois, la Blend nous simplifie le travail et nous propose un ensemble d'icônes qui sont fournies directement dans Windows. Donc là, je trouve ma petite étoile qui veut ma vienne pour ce bouton ajouter aux favoris. Voilà, donc ça, c'est, vous devez intégrer un design. Ça, c'est un outil qui vous permet de simplifier le design. Ensuite, on rencontre un certain nombre de problèmes une fois qu'on a avancé dans le développement. C'est le cas notamment des problèmes de performance, surtout quand on va travailler donc à nouveau sur des tablettes ARM. Il faut penser à bien tester votre application si vous voulez la rendre disponible pour les utilisateurs de ARM. Et on peut s'apercevoir d'avoir des latences ou quand on scrolle avec l'écran, on aperçoit des petits artefacts visuels. Mais pour vous aider à trouver l'origine de ces problèmes de performance, il y a un outil d'analyse de performance qui est dans Visual Studio, que vous pouvez retrouver dans le menu débugger. Qui s'appelle Performance et Diagnostic, dans lequel vous pouvez lancer des sessions de test. Ça veut dire que ça lance en fait une analyse, vous jouez avec votre application, vous faites un scénario classique, donc par exemple je vais sur la page d'accueil, puis je vais découvrir un album, et une fois que vous avez fini, eh bien, ça va vous enregistrer un certain nombre d'informations qui vous permettent de savoir où le temps CPU est utilisé, est-ce que c'est dans du code qui appelle du réseau, est-ce que c'est dans du code dans l'interface, quels sont là ici par exemple les contrôles visuels qui sont le plus présents à l'écran, donc il faudra peut-être faire un petit peu de ménage, simplifier votre structure de contrôle pour améliorer les performances. Et il y a d'autres types d'analyses qui sont faites. Ça, c'est une qui est très intéressante. À nouveau, quand on se situe sur une tablette, le grand souci qu'on a tous avec les tablettes et les téléphones portables, c'est d'arriver à tenir la journée ou deux jours entiers avec une autonomie sans recharger sa batterie. Eh bien, cet outil-là permet de mesurer l'impact au niveau de la batterie de votre application. Ça veut dire que vous jouez avec votre application, et puis il va vous dire ici que bien, si je joue avec mon application comme je fais dans le scénario, bien sur un ordinateur standard, je vais pouvoir tenir 7h75. Donc ça me paraît bien pour une première version de l'application.
Nous avons fait une application à économie d'énergie.
Exactement. Enfin, la dernière chose dont parlait Sacha tout à l'heure, c'est le processus de validation. Donc, il y a une première validation qui est technique. Et c'est assez frustrant de se voir refuser son application juste pour cette partie-là, parce que c'est quelque chose qu'on pourrait savoir à l'avance. Et pour ça, si vous installez le SDK Windows 8.1, vous allez avoir un outil qui s'appelle le Windows App Certification Kit, qui vous permet en fait de jouer vous-même sur votre machine ce test-là. Donc, on l'a joué pour l'application. Bon, ça a été pas terrible pour la première fois. Hein. On n'a pas réussi à passer le test. Et donc, on a tous les points qui ont été testés. Donc, c'est très facile de savoir pourquoi on a raté ce test-là. Et là, on voit, ah ben oui, effectivement, j'ai compilé mon application en mode debug. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas accepté par le store. Donc, je l'ai recompilé en mode release. J'ai rejoué le test. Et là, l'application est réussie.
Voilà. Alors, ce qu'il faut dire peut-être sur cet outil, c'est que globalement, dans les deux étapes que je vous ai citées tout à l'heure, si on utilise cet outil, la première étape, logiquement, passe sans problème, hein, puisque c'est à peu près le même outil qui est utilisé chez Microsoft. Donc, il est vraiment très, très important, en amont de la diffusion de votre application, bah, tout simplement d'utiliser cet outil. Alors, une dernière petite chose. On a beaucoup parlé d'apps, globalement, mais il faut savoir que Windows 8.1, ce n'est pas que ça. Et notamment, je voudrais souligner donc, quelque chose qui me tient à cœur, les capacités en fait, de IE11 à exécuter donc, du WebGL. Vous en avez vu quelques démonstrations en plénière, et notamment un framework, un vrai moteur 3D qui s'appelle Babylon.js. Donc, j'engage tous les développeurs web à utiliser globalement ce moteur qui fonctionne extrêmement bien et qui permet d'exécuter globalement des scènes 3D, des univers 3D dans l'ensemble de tous les navigateurs qui utilisent et sont compatibles avec WebGL. Je crois qu'on peut conclure sur Fête des apps. C'est ça le but. C'est vraiment une opportunité pour les développeurs. C'est vraiment une opportunité pour chaque entreprise de pouvoir publier sur un store qui est vraiment vu, utilisé par des millions d'utilisateurs à travers le monde, tout simplement de se faire connaître assez facilement.
Alors, on l'a pas dit, mais il y a pas mal de sessions sur ces Tech Days, sur Windows 8.1, sur un petit peu tous les sujets qu'on a couverts. Donc, que ce soit par exemple les nouveautés de XAML, sur le débugage avancé, sur les applications d'entreprise ou sur WebGL. Donc, n'hésitez pas à consulter le programme et à assister à ces sessions ou à les revoir.